Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager dans le bush australien. Voilà, une fois n'est pas coutume. Et donc, avec toutes les bêtes bizarres qui peuplent ce pays, Kenneth Bernard Cook nous raconte des histoires drôles et incroyables. Alors, Bernard Kenneth Cook, il est né le 5 mai 1929 à Lacamba, en Nouvelle-Galles du Sud, et est décédé le 18 avril 1987 à 57 ans. Il est journaliste, réalisateur, scénariste et écrivain australien, et est considéré comme l'un des principaux écrivains australiens contemporains. Donc, il est né dans la banlieue de Sydney. Il fréquente l'école secondaire. Et puis, après avoir quitté l'école, il va occuper divers emplois en Australie, y compris celui de technicien de laboratoire, de journaliste et de réalisateur de documentaires pour la télévision. Et il va exploiter aussi des cabanes à bateaux. En 1966, avec l'homme d'affaires Gordon Barton, Cook va fonder un nouveau parti politique, le groupe de réforme libérale. Cook s'oppose avec véhémence à la guerre du Vietnam et se présente, hélas sans succès, comme candidat au siège de Parramatta aux élections fédérales de 1966. Alors, son œuvre comporte 17 romans et 3 recueils de nouvelles, parfois publiés sous le pseudonyme de Adam Hall. Alors, Kenneth Cook rencontre un certain succès en France où il est publié aux éditions Autrement depuis 2006 seulement. Donc, c'est assez récent quand même. Alors, Le Koala Tueur et autres histoires du Bush, c'est un recueil d'histoires courtes et humoristiques réunies par l'auteur peu avant sa disparition et son plus grand succès en librairie. Alors, ces histoires ont été inspirées par ses tribulations à travers l'Australie. On peut lire en quatrième de couverture de l'édition de poche, une rencontre dans un bar, quelques bières fraîches, et voilà Kenneth Cook, écrivain d'âge mûr, en léger surpoids, embarqué dans d'incroyables aventures où la faune humaine et animale du bush joue le premier rôle. Kangourous suicidaire, koala explosif, wombat vindicatif, aborigènes roublards finissent toujours par contrarier son penchant naturel pour le confort. Heureusement, car Cook en tire une brassée d'histoires plus vraies que nature, racontées avec un art consommé du gag. Une lecture jubilatoire. Voilà, donc on va vous lire là quelques chapitres donc, hein, de ce recueil de nouvelles. Et donc, qui est paru en 2007 en Australie et seulement en 2010 en France, et qui a été traduit par Mireille Vignol. Et donc là, c'est Didier Delahaye qui va nous lire ces savoureuses histoires. Alors, la première s'intitule « N'essayez jamais d'aider un kangourou ».
N'essayez jamais d'aider un kangourou. Cette créature ingrate est susceptible de récompenser votre gentillesse par une violence inattendue. Je le sais, car ça m'est arrivé il y a quelques années en essayant de secourir un kangourou dans les Flinders Ranges, en Australie du Sud. Je roulais tranquillement dans les collines quand un grand roux rebondit sur la route devant moi. Il était énorme, même pour un grand roux. Il faisait dans les 2 mètres de haut et sautait sur la voie juste devant moi, à gauche. J'ai l'habitude des kangourous sur la route et je savais exactement ce que celui-ci allait faire. Il continuerait à bondir sur ma gauche jusqu'à ce que j'essaie de le doubler. Il se suiciderait alors en virant brusquement sur la droite et en percutant ma voiture. Je n'ai jamais compris ce comportement marsupial, mais ça ne rate jamais. Mais je suis plus rusé qu'un kangourou. J'accélérais, fis semblant de le doubler, et puis freinais brutalement. L'animal, croyant à tort que j'allais lui rentrer dedans, zigzaga sur la route devant moi. Je continuais, et le kangourou, privé de la mise en scène de sa mort, bondit sur la droite et tenta de sauter par-dessus une clôture de fil de fer. Le taux d'échec des kangourous au saut de clôture est très élevé. Ils effectuent un bond déterminé à leur approche, s'élèvent gracieusement dans les airs, se prennent habituellement les pattes arrière dans le haut de la clôture et tombent la tête la première. Ils se relèvent ensuite, l'air idiot, et s'en vont en clopinant. Ce kangourou-là suivit cette méthode à la lettre. Avec la grâce exquise typique du kangourou, il accéléra l'approche de la clôture et fit un énorme bond qui aurait dû lui permettre de passer par-dessus un immeuble de 2 étages. Il rata son coup. Ses pattes arrière se prirent dans le fil du haut de la clôture et il tomba sur la tête. Fallait s'y attendre, mais ce kangourou-là était particulièrement incompétent. Dans sa chute en avant, ses pattes arrière s'emmêlèrent dans le deuxième fil. Sous son poids, ce fil remonta encore plus haut que le fil du haut. Dès que le kangourou toucha le sol, le deuxième fil s'accrocha au premier et l'animal se retrouva les pieds fermement liés, si fermement liés qu'il n'aurait jamais été capable de se libérer sans l'aide d'un pigeon humain. Je suis le pigeon humain par excellence. J'arrêtai la voiture et m'approchai du kangourou, qui avait l'air franchement ridicule avec les jambes en l'air et la tête posée de côté sur la terre dure et rouge. C'était ce qu'on appelle un « boomer », un vieux mâle de l'espèce des grands roux. Dans l'Ouest, il qualifie toute puanteur de « véritable boomer », car l'odeur du boomer évoque un mélange de chat mort, de chien mort et de poisson extrêmement mort. Avec quelques haut-le-cœur, je me plaçais près du kangourou pour réfléchir au problème. Il n'y avait qu'une seule façon de soulager la pression sur le fil de fer, soulever le kangourou. Comme il pesait environ 1 tonne, c'était manifestement impossible. Il fallait donc couper le fil. Je ne transportais pas de coupe-boulon dans ma voiture. Le kangourou me fixait d'un regard totalement inexpressif. Les kangourous, comme les moutons, ont une gamme très restreinte d'expression. Ils poussaient de temps en temps un grognement fort, profond et vraisemblablement menaçant, mais avec la gueule par terre, sa grosse croupe en l'air, sa queue pendouillant sur un côté et ses énormes pattes griffues solidement piégées par le fil de fer, cet animal ne représentait aucune menace, même pour un homme comme moi, particulièrement sensible aux menaces. Je réfléchissais. Le kangourou continuait à grogner et à puer. Je songeais à aller chercher de l'aide à Arkaroula, mais ça m'aurait pris 1 heure ou 2. Il faisait très chaud. Le kangourou serait peut-être mort au bout de 2 heures. J'avais une carabine 303 dans la voiture, une balle suffirait sans doute à couper le fil. J'allais la chercher et la chargeai. Gardez à l'esprit que je n'avais encore jamais vu de kangourou de si près. Aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, je poursuivrais ma route à vive allure sans demander mon reste. Au lieu de ça, je plaçais prudemment la gueule du canon contre le fil de fer du haut et appuyais sur la gâchette. La balle trancha le fil. Les pattes, la croupe et la queue du kangourou s'effondrèrent. Je m'attendais à ce qu'il se relève et s'en aille en bondissant gaiement, mais ce ne fut pas le cas. Il restait couché sur le côté, grognait et puait. Ses pattes ne semblaient pas blessées. « Allez, mon vieux !» lui dis-je énergiquement. « Debout ! Oust ! Allez, allez !» Le kangourou grogna et pua. Je me penchai et lui donnai une petite bourrade dans les côtes. Il poussa un grognement sinistre, se releva et me passa ses bras ou ses pattes avant, bref, ce qu'ont les kangourous à cet endroit, autour du cou. Un observateur non averti aurait pu croire à un geste de gratitude affectueuse, loin de là. J'avais déjà vu un kangourou jouer ce tour à un chien. Poursuivi jusqu'à l'épuisement par un chien de chasse, le kangourou s'adosse à un arbre. Quand le chien s'approche pour l'achever, le marsupial le prend dans ses bras et ne le lâche plus. Il passe ensuite une de ses pattes arrière sous le ventre du chien et l'éviscère avec ses énormes griffes. J'avais vu un berger allemand pratiquement coupé en deux en un seul coup de griffe de kangourou. C'était manifestement le sort que me réservait ce kangourou-là. Je lançai un cri de protestation, mais il n'y prêta aucune attention. Le kangourou devait être encore un peu étourdi car il mettait du temps à m'éviscérer. Faisant preuve d'un esprit d'initiative rare chez moi, je décidai d'adopter la tactique du koala. J'en ai déjà parlé dans un autre récit. Quand il est attaqué, le koala se colle au bas-ventre de son agresseur. Ce dernier, habituellement un dingo, ne peut donc ni mordre ni griffer aucun organe vulnérable du koala. Si nécessaire, un koala peut rester accroché ainsi jusqu'à la mort du dingo. Fort de cette connaissance des choses du bush, j'enlaçai le cou du kangourou et serrai mes jambes autour de son corps. Le kangourou grogna. Je restai collé à lui, follement accroché, en me demandant ce que j'allais faire par la suite. Une fois ou deux, le kangourou tenta faiblement de passer une patte arrière sous mon ventre, mais c'était impossible. Il ne parvint qu'à meurtrir mes fesses avantageuses à coups de cuisse. La situation était loin d'être dramatique, elle se limitait au grotesque. Je me retrouvais, moi, un homme corpulent, d'âge moyen, les bras et les jambes serrés autour du plus gros et plus puant de tous les vieux kangourous des monts Flinders. Toute personne passant par là s'en serait étonnée. Mais personne ne passe par là, ou très rarement. Comment me sortir de ce mauvais pas? Si je lâchais, le kangourou me donnerait au moins un coup de ses griffes arrière. À cette pensée, mes amples intestins frémirent dans leur fragile cage de chair flasque. D'un autre côté, je pouvais difficilement enlacer indéfiniment cette bestiole infernale. Les koalas ne voient peut-être aucun problème à s'agripper au dingo jusqu'à mort du dingo, mais j'étais certain que le kangourou avait un instinct de survie bien plus développé que le mien. Mon fusil était à quelques mètres de moi, l'autre côté de la clôture. Impossible de l'atteindre. Je plantai mon regard dans les yeux vides du kangourou et il me renvoya un regard inexpressif. Puis il sauta. Je suis probablement le seul écrivain d'Australie à avoir sauté, agrippé au ventre d'un grand roux. Ce fut une expérience extraordinaire. Je sentais chaque muscle du corps de l'animal se tendre et se contracter, tandis que ses pattes arrière s'enfonçaient comme des ressorts, puis se détendaient violemment. Le kangourou fit un bond de 2 mètres, et moi avec. Puis il recommença, encore et encore. Cet abruti s'enfuyait avec moi. On résonne de travers quand on est accroché au ventre d'un kangourou bondissant sur les crêtes des Flinders. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je devais faire. Je me limitais donc à m'accrocher et à hurler de peur. Le kangourou poursuivit son parcours, sautillant dans la nature, portant avec lui mes 100 kilos de chair misérable et effrayée, sans le moindre effort apparent. C'était étonnamment confortable. Il n'y avait pas de secousse quand le kangourou se posait. Je ne sentais qu'une simple convulsion rythmique de ses muscles, tandis qu'il bondissait en avant, s'envolait, touchait terre et rebondissait. Nous avancions dangereusement vite, l'œil fixé au-dessus de l'épaule du kangourou. Je voyais ma voiture diminuer dans le lointain. Je me dis que j'allais devoir lâcher et que le kangourou m'éventrerait sans doute sur place. En attendant, je ne pouvais rien faire d'autre que de m'accrocher et espérer que quelque chose se passe. Je ne voyais pas vraiment quoi. Cela dura une dizaine de minutes. Cet étrange mouvement précipité me donna mal au cœur. J'avais le mal de mer, la puanteur du boomer m'empestait les narines, et j'étais dans une situation aussi absurde qu'effrayante. Aucune solution en vue, j'étais loin d'être un homme heureux. Puis le kangourou s'arrêta net. J'ouvris une paire d'yeux angoissés et me vis suspendu au bord d'un précipice d'une dizaine de mètres. Le kangourou s'était arrêté car il ne pouvait pas aller plus loin sans décider de se jeter, et moi avec lui, dans le vide. J'étais certain que c'était exactement ce qu'il envisageait de faire à ce moment-là. Perché comme il l'était, son air imbécile encore moins expressif qu'avant, ses orteils au bord de la falaise et moi pendouillant par conséquent dans le vide. Tout cela était un peu trop pour un homme qui n'avait eu d'autre ambition que de secourir un animal en difficulté. Je regardais le précipice. La profondeur n'était pas vertigineuse, mais 10 mètres représentent une dure chute pour un homme dans ma condition physique. J'aperçus cependant à quelques mètres un épais fourré de lantaniers. Je suis la seule personne au monde à connaître la capacité de concentration d'esprit lorsqu'on se retrouve pendu au-dessus d'un précipice de 10 mètres dans les bras d'un kangourou homicide. Il me fallait inciter le kangourou à se déplacer le long de la falaise, jusqu'à ce que j'arrive au-dessus des lantaniers. Je ne qualifierais pas de désirable une chute de 10 mètres dans un épais fourré, mais c'était infiniment préférable à ma situation du moment. Le kangourou, quant à lui, semblait décidé à rester planté au bord du gouffre à tout prix, se demandant s'il était bien raisonnable de sauter sur les rochers juste au-dessous de lui. Tout ce que je voulais, c'était qu'il se déplace de quelques mètres sur la droite pour que je puisse me libérer de son emprise et tomber dans un fourré de lantanier relativement confortable. Comment faire bouger un kangourou quand on est accroché à son ventre et qu'on pendouille au-dessus d'une falaise? Il n'y avait aucun précédent. J'improvisais. Son oreille gauche était la seule partie de son anatomie que je pouvais attaquer. Cette oreille était si proche de mon visage qu'il me sembla que si je lui infligeais une douleur, le kangourou se déplacerait peut-être sur la droite. Il n'y avait qu'une seule façon d'infliger une douleur à cette oreille gauche de kangourou. Je la mordis. Mordre l'oreille poilue d'un kangourou vivant est un acte répugnant, mais l'effet est spectaculaire. Le kangourou poussa un grognement de douleur parfaitement éloquent et bondit, Dieu soit loué, sur la droite. Ma vue trouble repéra le parterre de lantanier en contrebas. Je dégageai mes bras du cou du kangourou, démêlai mes jambes de son corps, lui donnai un coup de pied dans le ventre, aussi fort que rancunier, et me propulsai dans l'espace. Naturellement, je crus mourir, mais je préférais ça à l'agonie du suspense entre des griffes de kangourou. En fin de compte, je plongeai dans les lantaniers sans conséquences fâcheuses, si ce n'est que mes vêtements furent arrachés de mon corps et que chaque centimètre carré de ma peau fut lacéré par les minuscules lamettes tranchantes qui servent à protéger les lantaniers des avalanches de gros bonshommes. J'émergeai après une dizaine de minutes de lutte contre les lantaniers, exténué, saignant un peu, et très en pétard contre les kangourous. Perché au bord du précipice, celui que j'avais sauvé d'une mort abominable me fixait de son regard totalement inexpressif. J'arpentais le pied de la falaise jusqu'à ce que je trouve un endroit facile à escalader. Ma voiture n'était qu'à 500 mètres de là et je n'eus aucun mal à la rejoindre avant de mourir d'insolation ou de soif. Je ramassai ma carabine, jetai un regard au kangourou et envisageai sérieusement de lui tirer dessus dans un esprit de pure vengeance. Il était toujours planté au bord de la falaise, impassible et inexpressif. Je renonçai à mes idées de vengeance et repris la route. Cela dit, à l'avenir, vous n'êtes pas prêt de me voir secourir un kangourou.
Donc voilà, il faut donc être très prudent avec les kangourous si vous en croisez un sur votre chemin. Donc maintenant, je vous propose d'écouter une autre histoire qui s'intitule « Le coca tueur ». Alors, coca, ça s'écrit Q-O-2-K-A, et c'est pas un verre de coca, hein, c'est un petit animal, vous allez voir, voilà, qui peut se montrer si agressif.
Relativement peu de gens connaissent le coca. Ils sont encore moins nombreux à en avoir vu un. C'est préférable. Il vaut mieux que le coca reste dans l'ombre. Permettez-moi toutefois d'expliquer, à l'intention de ceux qui risquent d'en croiser un, que le coca est un wallaby de très petite taille, guère plus gros qu'un petit chat ou qu'un très gros rat. Il a une sale gueule hargneuse et des petits yeux brillants dépourvus de compassion. Comme tous les wallabies, il fait des bonds de kangourou et porte ses petits dans sa poche. Il est affublé d'une longue queue qui ressemble à celle d'un rat. L'image du rat revient systématiquement quand on essaye de décrire le coca. Les Hollandais, qui furent les premiers blancs à en voir, les ont pris pour des rats. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont baptisé Rotnest, nid de rat, le charmant petit îlot de nature rocailleuse, situé à une quinzaine de kilomètres de Fremantle, en Australie occidentale. L'île était infestée de coca, et les Hollandais ont sagement gardé leur distance. Puis les colons britanniques se sont aperçus que les coca n'étaient pas des rats, et ils ont fait de Rotnest une colonie pénitentiaire. Tout bagnard particulièrement impénitent était envoyé sur Rotnest avec les quokka, ce qui était considéré comme un sort si terrible que même les bagnards les plus endurcis et invétérés hurlaient « Par pitié, ne m'envoyez pas chez les quokka !» et se repentaient sur l'instant quand on menaçait de les bannir sur Rotnest. C'est en tout cas la légende qui circule dans les pubs de Fremantle. L'île de Rottnest est toujours infestée de quokkas, mais, caprice du destin, ils sont maintenant devenus une attraction touristique. Ils sautillent par centaines tout autour de l'île et d'innocents vacanciers non armés se promènent parmi eux. Pour être honnête, il y a longtemps qu'un quokka n'a pas tué d'homme. Une centaine d'années environ, et il le fit en lui transmettant la salmonellose. La salmonelle est une bactérie particulièrement violente, habituellement associée à des résidus de nourriture en putréfaction. Elle peut tuer les humains, qui l'attrapent très facilement. Le petit musée de l'île de Rottnest expose l'histoire de l'homme victime de salmonellose transmise par quokka, tout en affirmant que c'est uniquement possible en ingurgitant leur crotte. Ce qui donne à réfléchir. De nos jours, le quokka est toutefois considéré par tous comme étant inoffensif en raison de sa petite taille, ce qui s'inscrit dans une grande série de grandes illusions qu'entretiennent les gens sur les marsupiaux d'Australie. Comme la plupart sont petits, les gens ne les croient pas dangereux. Quelle bévue! Prenez les souris marsupiales. Peu de créatures sur Terre sont plus minuscules. Comme elles ressemblent à d'adorables peluches avec des grandes oreilles, les gens les affectionnent beaucoup. Mais ont-ils déjà songé à ce qui se passe quand ces bêtes deviennent un fléau et qu'elles se regroupent en milliers, voire millions de spécimens? J'ai dormi à la Belle Étoile, bien à l'ouest de la piste de Birdsville, et j'ai senti le désert vibrer sous les pas d'un million de petites pattes de souris marsupiales. J'ai cru qu'une horde redoutable m'attaquait. Mais c'est une autre histoire. Je tiens seulement à souligner ceci, de petite taille n'est pas synonyme d'inoffensif. N'allez pas croire que les quokkas se déplacent en horde. Non, ce sont des assassins solitaires. Peu de gens veulent l'admettre, mais moi, j'en suis certain. L'un d'eux a réellement tenté de me tuer. J'ai des cicatrices pour le prouver. À l'époque, j'avais entrepris de parcourir en vélo toute la côte d'Australie occidentale. Je ne me souviens plus du tout pourquoi, peu importe. Ma tentative commença au sud de Fremantle et s'acheva au nord de Fremantle. Le vélo n'est pas le meilleur moyen de transport pour un écrivain d'âge moyen en mauvaise forme physique. Quoi qu'il en soit, c'est à cette époque que j'ai visité l'île de Rottnest et que je me suis embarqué avec ma bicyclette sur l'hydrofoil qui transporte les touristes. Je languissais de voir un quokka. Et de nos jours, Rottnest est le seul endroit au monde où l'on est sûr d'en voir. C'est ainsi que de nombreux vacanciers candides se font berner sur l'île. Plus candide que la moyenne, je sortis mon vélo de l'hydrofoil et me mis à pédaler dans Rottnest. C'est une très belle île, avec une eau superbement limpide qui clapote sur les étonnantes formations rocheuses de son littoral. Et des espèces végétales presque uniques se sont adaptées dans une région habituellement aride. Je porte dans un sac à dos mes rations de survie, 2 bouteilles de rouge cru bourgeois, un peu de fromage, du saumon fumé, du pain, des pommes. Après avoir énergiquement pédalé quelques heures et m'être éloigné d'un ou 2 kilomètres du port, j'arrivai au pied d'une colline assez impressionnante, descendis de vélo et le poussai car je prends soin de ne pas abuser de mes ressources physiques limitées. Parvenu au sommet, sur une jolie petite butte avec vue sur la mer, je décidai qu'il était temps de me reposer et de casser la croûte. Je descendis tranquillement 1/2 bouteille de vin avant de m'intéresser au pain et au fromage. J'avais dans mon sac du gorgonzola fort honnête, hein, que je prends habituellement plaisir à déguster avec un bout de pomme. Je plaçai la tranche de pomme sur un morceau de gorgonzola, sur une couche de beurre, sur une tartine de pain. Et j'allais plonger mes crocs dans cette superposition de bonnes choses, au mépris de mon taux de cholestérol, quand je vis mon premier quokka. Il sortit sans se presser des petits boissons autour du talus et m'observa avec insolence. C'était une bête à l'air cruel, avec des traits de sale rongeur et une gueule ingrate. Mais elle était petite et ne montra d'abord aucune tendance agressive. Je n'étais pas du tout inquiet. Je la regardais, elle me regardait. Les bonnes manières semblaient exiger que je fasse le premier pas. Je lui dansai donc un petit bout de fromage et un bout de pomme. Le quokka s'approcha, renifla mon offrande, puis il me gratifia d'un regard méfiant, sans un soupçon de reconnaissance. « Vas-y, lui dis-je gentiment, serre-toi, le fromage et la pomme n'ont jamais fait de mal à un quokka. » Il s'approcha à nouveau et saisit la nourriture entre ses pattes minuscules. Il harnifla encore, mit délicatement la pomme dans sa gueule, mastiqua un peu, fronça le museau et recracha le fruit. « Très bien, commentai-je, les quokkas n'aiment pas les pommes, et c'est le fromage. » Il m'écouta, il glissa le gorgonzola dans sa gueule et se mit à mastiquer prudemment. Puis, il tomba raide sur le dos. Je me levai précipitamment. Ardent défenseur de la protection de la nature et de l'environnement, j'étais convaincu que les créatures comme les quokkas devaient être protégées à tout prix. Avais-je accidentellement empoisonné cette pauvre bête avec un bout de gorgonzola? Pris de remords, je me menaçais. Je savais que les animaux indigènes réagissent souvent violemment aux nourritures exotiques. J'avais fait preuve d'une imprudence criminelle en offrant un morceau de gorgonzola à ce pauvre quokka. Je m'agenouillai à côté de son corps minuscule. Il respirait difficilement et rapidement. Ses yeux étaient à moitié ouverts, mais il paraissait aveugle. Il tenait ses petites pattes de devant serrées sur son poitrail, comme un enfant qui se tord les mains. Une de ses petites oreilles tressautait tristement. Quel tableau pitoyable! Je ne pouvais rien faire. Je n'avais jamais vu de quokka avant et, en tout cas de cause, je n'avais pas la moindre idée des procédures à suivre en cas d'empoisonnement au gorgonzola. Mais il y avait sans doute des rangers au port, des experts qui savaient comment sauver les quokkas à l'article de la mort quand ils ont été importunés par des touristes idiots et étourdis de mon acabit. Je vidai mon sac à dos, ramassai le petit corps tremblotant et le posai délicatement à l'intérieur. Je pris soin de laisser le rabat du haut ouvert pour que le quokka puisse respirer, remis le sac sur mon dos et bondis, plutôt que grimpai, sur mon vélo. La route était longue et très abrupte au départ. Avec un peu de chance, je pensais arriver au port en un quart d'heure. Je fonçai dans la descente, en pédalant comme un damné, puis je compris que j'allais si vite qu'il était inutile de pédaler. Je me contentais donc de rester en selle et de me concentrer sur le pilotage du vélo, et sur ce qui devint vite pour moi une vitesse extraordinaire. De plus en plus extraordinaire, jusqu'à ce que je comprenne que j'allais bien trop vite pour assurer ma sécurité. Mon inquiétude pour le quokka se reporta vite sur celle pour mes propres os. Quelques minutes de plus, ou de moins, n'allaient sûrement pas faire une énorme différence. Je freinais. Il ne se passa rien, sinon que je fonçais encore plus vite. J'avais acheté le vélo pour un excellent prix à un monsieur très comme il faut que j'avais trouvé par le biais d'une petite annonce à Fremantle. Il m'avait assuré que la bicyclette était en parfait état, mais jusqu'à ce moment, je n'avais pas eu besoin de me servir sérieusement des freins. Je serrai fort des deux mains. Un bruit étrange, une sorte de crissement métallique s'échappa des roues. Mais il n'eut aucun effet sur la vitesse. Je dévalais la pente à une allure prodigieuse. La route cabossée faisait vibrer ma machine et mon corps si violemment que ma vision se troublait. Je panique facilement, et j'avais toutes les raisons de m'effondrer en balbutiant. Mais ce n'est pas une solution très pratique quand on se trouve sur une bicyclette folle qui dévale à une pente à près de 100 km à l'heure. La route virait doucement au pied de la colline et suivait une petite falaise au-dessus de la mer. Je n'avais plus qu'à m'accrocher, à bien suivre la courbe et tout irait bien. Je m'accrochais. Le quokka choisit ce moment pour se remettre de ses émotions. Je sentis des tiraillements violents dans le dos et des mouvements m'indiquant qu'il escaladait le sac. Je m'inquiétais, vaguement et brièvement, de la possibilité qu'il tombe par terre et se blesse à cette allure infernale, mais je ne pouvais rien faire d'autre que d'agripper le guidon et d'essayer de maintenir le vélo au milieu de la route. Le quokka arriva en haut du sac, puis je sentis sa petite patte dans mon cou. En dépit du courant d'air dû à la vitesse, je pris conscience d'une étrange odeur, un mélange de moquette moisie et de gorgonzola. J'avais descendu la moitié de la colline, et la vitesse avait augmenté à tel point que les roues du vélo semblaient ne toucher la route qu'environ tous les 3 mètres. Puis elle rebondissait. Je dévalais la pente en grand saut avec un quokka accroché autour du cou. Un hurlement aigu me pénétrait dans l'oreille gauche. C'était le quokka, pris de peur panique. Il m'escaladait le cou tout en essayant, semble-t-il, de passer devant moi. Je n'avais pas toujours atteint les derniers stades de la panique, l'effondrement total. Dans la mesure où je pouvais penser, je pensais que le quokka s'était remis et pouvait se débrouiller tout seul. Tandis que je devais me concentrer sur mon arrivée au pied de la colline, ne pas rater le virage et éviter de sauter à la mer. Puis, Le coca plongea ses dents dans mon oreille gauche. J'entendis mon hurlement de douleur que les sifflements du vent ne parvinrent pas à couvrir. J'ôtai la main gauche du guidon pour essayer de faire lâcher prise au coca. Le vélo fit une violente embardée sur la droite. Je repris le guidon des deux mains et en deux bonds, je réussis à replacer la machine au milieu de la route. Le coca me grattait le cou et les épaules avec ses pattes de devant et de derrière. Ma peau commençait à se désintégrer. Puis il arrêta et décida d'agripper mon oreille avec sa mâchoire et de se laisser prendre au lobe. Un coca ne pèse qu'un ou deux kilos, mais je vous mets au défi de piloter un vélo fou dans une pente abrupte avec quelques kilos de coca accrochés à l'oreille gauche. Je hurlais, comme je le fais toujours quand je suis en danger, mais ça n'a eu aucun effet. J'enlevai la main gauche du guidon et frappai tout autour de ma tête, essayant d'attraper le coca pour le détacher, même si je devais sacrifier mon oreille. Le vélo se précipitait frénétiquement d'un côté à l'autre de la route, en effectuant des sauts de plus en plus grands et en vibrant si violemment que je ne voyais plus grand-chose. Le virage se rapprochait. La falaise aussi. La queue du coca fouetta ma main ouverte, je serrai les doigts et tirai de toutes mes forces. L'unique effet fut d'ajouter ma traction au poids du coca sur mon oreille gauche. Je crus qu'elle allait se couper à ses points d'attache. J'aurais sans doute été soulagé si ça avait été le cas, mais non, non. C'est en tirant furieusement sur la queue du coca et en beuglant de douleur que je pris le virage, bondissant à 100 km à l'heure, au moins, et sans la moindre chance d'en voir la fin. Le vélo rebondit une fois au début du virage, une autre fois au bord de la falaise, puis s'envola promptement et atterrit dans l'eau, 5 mètres plus bas. J'ai souvent pensé que cette image de moi aurait fait une photo superbe, gros et flasque, perché sur une bicyclette, un coca pendouillant à l'oreille gauche, tenant la queue de l'animal dans la main gauche. Le magazine Time est prêt à verser des sommes d'argent considérables pour acquérir ce genre de cliché. Il n'y avait aucun photographe à proximité, et j'atterris dans environ un mètre d'eau, au bord d'une plage sablonneuse. Je n'étais pas blessé, et le coca avait, semble-t-il, été éjecté pendant le vol plané. Je sortis la tête de l'eau et vis l'abominable créature au bord de la mer. Elle me fusillait du regard et montrait les dents. J'ai l'habitude des rencontres avec les marsupiaux australiens. Je sais que je perds toujours. Je me résignais à pousser mon vélo au milieu des petites vagues, ce qui n'est pas assez facile, pour maintenir une distance de sécurité avec le coca. Puis je rejoignis la route en empruntant une rampe pour bateau. Elle allait prestement jusqu'au port, trempée, endolorie, l'oreille en sang. Au pub, où je m'offris une bière, le barman me demanda ce qui était arrivé à mon oreille. Je lui racontai que j'étais rentré dans un arbre. Il aurait été absurde de lui dire la vérité.
Donc voilà une rencontre originale avec un coca tueur. Alors je vous propose maintenant d'écouter une dernière nouvelle qui s'appelle Attention, koala explosif. Donc encore tout un programme par rapport à ces animaux australiens qui nous paraissent quand même très bizarres. Donc je vous laisse toujours en compagnie donc, de Didi.
Attention, koala explosif. Parmi les nombreuses histoires relatant les dangers que présentent les marsupiaux australiens, la seule à devenir le sujet d'une thèse doctorale d'anthropologie, ce qui la rend donc digne de foi, relate comment un koala a tué 10 hommes d'un seul coup. Je me méfie des koalas depuis que l'un d'eux a essayé de me tuer en Tasmanie, mais je n'avais pas soupçonné leur potentiel de destruction avant d'entendre l'histoire de Bilyangarakula dans un lit de rivière desséché à l'ouest du lac Eyre, en Australie méridionale. Bilyangarakula était un aborigène aussi âgé que gras, avec une barbe et des cheveux blancs bien fournis. C'était un Pitinji, et en sa qualité de plus ancien Pitinji vivant, il était le détenteur principal de leur histoire. Je le rencontrais alors que j'avais perdu ma route entre Broken Hill et Cooper Pedy. Je tombais sur son feu de camp juste avant la nuit. Il était confortablement installé dans une chaise longue en plastique et sirotait du sherry à la bonbonne. Parce que j'étais en pays Pitinji et que je connaissais quelques mots de Pitinji, j'essayais de lui parler dans ce que je pensais être sa langue matérielle. « Où diable me suis-je paumé ?» demandai-je en substance. « Tu parles un très mauvais Pitinji, me dit-il gentiment, dans un anglais tout à fait compréhensible, quoique légèrement guttural. « Où tu veux aller ?»« À Cooper Pedy. » »« Mets le cap sur l'ouest, jusqu'à la route, puis prends au nord, me dit Bidyangarakula. Tu veux boire un coup ?» Ce qui résolut pendant une heure la question de savoir où j'allais. Je m'assis avec Bidyangarakula. « Appelle-moi Bill, dit-il gentiment, après m'avoir entendu écorcher son nom à plusieurs reprises. » Et il m'apprit qu'il s'était éloigné de son camp quelques jours plus tôt, avec sa chaise longue et son sherry, pour réfléchir. Nous avions évoqué en détail le nombre de femmes qu'il avait épousées et d'enfants qu'il avait engendrés. Le petit dernier n'avait que quelques mois. Quand un anthropologue est arrivé. Il n'y a rien d'étonnant à croiser un anthropologue dans les coins reculés et arides du désert australien. Ils sont partout. On estime que, dans l'Outback, il y a plus d'anthropologues étudiant les aborigènes que d'aborigènes. Celui-ci était un grand homme fin, avec des cheveux gris et fins, un long nez fin, des mains nerveuses et fines, et une voix fluette. Un universitaire. Il arriva au volant d'un 4x4 Mitsubishi tout propre, véhicule de prédilection des universitaires dans le bush, et il parut très surpris de me trouver là. « Oh ! » dit-il. « Je pensais que nous serions seuls, Bidyangarakula. » Bill ne releva pas la prononciation grotesque de son nom, et n'eut pas la courtoisie de suggérer l'alternative de « Bill ». L'universitaire m'observait nerveusement, mais Bill ne prit pas la peine de nous présenter. Là-bas, on s'imagine toujours que tout le monde connaît tout le monde. Mais je sais lire entre les lignes. Et en tant qu'homme qui cherche la paix à tout prix, je me présentais et déclinais mes médiocres qualifications sociales en annonçant que j'étais un romancier en quête d'inspiration. L'universitaire, immédiatement détendu en présence d'un inférieur social, me gratifia de son nom, Dan Johnston, et m'expliqua qu'il avait pris rendez-vous avec Bilankaban Bumbundun, il se plantait à chaque fois, à cette heure et à cet endroit, car il effectuait des recherches sur l'histoire orale des Pitinji pour son doctorat. Puis, espérant que j'aurais la décence de disparaître, il s'installa à côté de Bill et tira un carnet de sa... « Bon, dit-il, je crois qu'on était sur le point d'aborder la bataille de Bijin Creek. »«
Ah ouais, répondit Bill. On s'était entendu sur $50, je crois. »«
Oui, oui, naturellement, dit l'universitaire en sortant un portefeuille de sa poche arrière, où il choisit prudemment un billet de $50 qu'il tendit à Bill. Il prit soin que sa main ne touche pas celle de Bill, ce qui était raisonnable, car ce dernier avait des mains crasseuses, mais ce qui n'était pas très convenable. » Bill enfonça le billet dans la poche de son short bouffant, il ne portait rien d'autre, et gratta pensivement les poils blancs et fournis qui lui couvraient la poitrine et le vent. « Bois un coup, » offrit-il à Johnston en lui tendant la bonbonne. L'invité regarda la bouteille en affichant une grimace cocasse. Il connaissait suffisamment l'Outback pour savoir qu'il était socialement inacceptable de refuser à boire, mais la pensée de boire à même cette bonbonne heurtait trop profondément sa sensibilité. « Non merci, » finit-il par dire. « Il faut que je puisse me concentrer, tu comprends. Peut-être quand on aura fini. » Bill esquissa un léger sourire sardonique et me fit silencieusement passer la bonbonne. Je n'étais pas particulièrement enchanté de boire à la bouteille non plus, et j'ai horreur du sherry, mais il est impossible de refuser un coup à boire si l'on veut préserver un minimum de standing. Sans parler qu'on ne refuse jamais l'offre d'un Pitinji si l'on tient à sa peau. Je bus une goulée, infecte, et lui rendis la bonbonne. Bill se mit à l'aise, et d'une moue discrète de ses lèvres épaisses, me dit, sans l'ombre d'un doute, dans la gestuelle Pitinji, « Regarde un peu ce que je vais faire à ce petit malin. » Ses lourdes paupières closes, il semblait avoir sombré dans un demi-sommeil. Il avait un bras replié sur le torse, l'autre pendait à côté de la chaise longue, la main posée sur la bonbonne. Quand il se mit à parler, il avait le ton monotone que l'on attend des gens en transe. Johnson prenait quelques notes rapides à ce sujet, mais j'étais perplexe, car habituellement,
Quand les aborigènes me racontaient des histoires, ils les accompagnaient d'une gestuelle animée. La bataille de Beijing Creek, psalmodia Bill, fut remportée par un couloir. C'est une méthode dont nous étions fiers dans le temps, mais qui est interdite à présent car elle est trop atroce. Johnston toussota. Excusez-moi, en quoi consiste un couloir ? Bill fit comme s'il ne l'avait pas entendu. Les Pitinji étaient les ennemis des Wangina depuis... Excuse-moi, insista Johnston, je ne sais pas ce qu'est un couloir. De nombreuses années poursuivit Bill, et on se faisait toujours battre. Couloir est le terme Pitinji pour koala, murmurai-je à Johnston, qui m'adressa un regard méfiant, mais prit note. Les yeux de Bill étaient presque clos maintenant, et sa voix fredonnait dans les profondeurs. Cette histoire n'appartient pas au temps du rêve. J'étais un témoin de cette histoire. J'étais présent à la bataille de Beijing Creek, même si elle a eu lieu il y a près de 100 ans. Les Wangina avaient volé une de nos femmes, et nous nous apprêtions à les combattre. Nous nous servions de lances, de boomerangs et de massues. Mais ils nous battaient à chaque fois car ils étaient plus grands et plus méchants que nous. Ça ne s'est pas passé ici. C'était au sud, près de la côte, en terre Pitinji, avant qu'on ne soit chassé dans ce satané désert de merde par l'homme blanc. Les vieilles terres Pitinji avaient beaucoup de gibier et nous vivions bien, mais nous n'étions pas très grands. On dit que nous sommes des enfants venus de ce qu'on appelle maintenant la Tasmanie, parce qu'ils sont petits eux aussi. Ou plutôt, ils étaient petits avant d'être exterminés par l'homme blanc. Le stylo de Johnston fumait presque sur son carnet. Il enregistrait chaque mot, n'en perdait pas une miette. J'étais quant à moi un peu intrigué. Tous les Pitinji que je connaissais étaient de grande taille et Bill était gigantesque. Comment la vie de désert avait-elle pu contribuer à une augmentation de la taille du corps tribal en l'espace de quelques générations ? Nous, Pitinji, nous nous décourageons, car nous finissions tous les combats avec des fractures de la tête, des nombreuses blessures et parfois même des morts, tandis que les Wangina semblaient toujours s'en tirer à peu près. Puis notre meilleur guerrier est tombé et ne s'est pas réveillé de 3 jours. C'était malencontreux, parce que la guerre devait continuer jusqu'à ce que l'on remporte une bataille. Une de nos femmes avait été volée, et il fallait punir les Wangina. On a donc continué avec les batailles de la nouvelle lune, mais les Wangina refusaient de coopérer et s'entêtaient à nous battre. On aurait dit qu'ils prenaient plaisir à nous battre et qu'ils n'avaient aucune intention d'arrêter. Mon peuple a fini par déprimer. On n'avait pas envie de se battre, mais on était obligé de punir les Wangina qui refusaient de se laisser faire. En tuer un ou deux aurait suffi, mais ils refusaient de nous aider. C'est alors que mon grand-père, qui bien sûr était chef des Pitinji, a tenu conseil et nous a dit qu'il était temps d'en finir. Il connaissait une arme secrète, capable de détruire les Wangina. Il l'utiliserait avec réticence, mais les Wangina avaient fait preuve de tant d'antipathie, de mauvaise volonté et de désobligeance qu'il était impossible de les vaincre en suivant les méthodes de guerre conventionnelles. Il était donc temps, d'après mon grand-père, d'adopter des moyens extrêmes pour rétablir l'équilibre, c'est-à-dire pour tuer quelques Wangina. « Toi, » me dit mon grand-père en me montrant du doigt, j'étais alors un jeune homme et un bon guerrier, « va me chercher un couloir. » L'un des yeux de Bill s'entrouvit brièvement et chercha Johnston. « Un koala, si tu préfères, » dit-il en refermant l'œil. Johnston me fit un petit signe de la tête, reconnaissant avec magnanimité que j'avais eu raison. « Et donc, » poursuivit Bill, « je suis allé chercher un koala. » Il y en avait plein à l'époque dans cette région, et il n'était pas difficile de les attraper. J'en ai tué un en l'assommant, et je l'ai ramené au camp. Mon grand-père était furieux. « Mais non, espèce d'abruti, » m'a-t-il dit. « Je veux un couloir vivant. » Bill prit le temps de se remémorer la colère de son grand-père. C'était très bizarre. Normalement, quand on voulait manger un koala, on allait en chercher un, on l'assommait, puis on le jetait au feu. Mais mon grand-père avait forcément raison, comme toujours avec les chefs Pitinji. Et je suis retourné dans la forêt chercher un koala vivant. C'est moins facile qu'on le croit, parce qu'un koala est un animal dangereux qui mord, griffe, et n'apprécie pas du tout qu'on le déloge de sa branche et qu'on le déplace. Mais j'y suis parvenu, et quand je suis revenu au camp, complètement écorché, J'avais un koala vivant dans les bras. « Très bien, » me dit mon grand-père. « Enveloppe-le dans des fourrures et fais-le taire jusqu'à ce qu'on en ait besoin. » L'anthropologue désapprouvait visiblement ce mauvais traitement des koalas et Bill en était tout à fait conscient. Il faut se rappeler qu'il y avait beaucoup de koalas à l'époque, un peu comme les lapins aujourd'hui. Ils n'étaient pas mauvais une fois que l'essence d'eucalyptus avait séché. Et c'est naturellement sur quoi misait mon grand-père. L'abondance d'essence d'eucalyptus contenue dans un koala. L'anthropologue gribouillait furieusement, mais il avait l'air un peu perplexe. « Tu n'es pas sans savoir, » poursuivit Bill, « que le koala passe tout son temps à mâcher un certain type de feuille d'eucalyptus qui a une haute teneur en essence. »« Je le sais, » répondit l'universitaire. « Et tu sais aussi, » dit Bill en admirant ses énormes orteils noueux et laids, « que l'essence d'eucalyptus alimente les feux de la brousse. » Et que quand les incendies prennent, l'essence s'échappe des arbres qui la vaporisent en propageant les flammes.
Oui, dit l'anthropologue, mais je ne vois pas le rapport avec... Bill leva la main.
J'y viens. Tu veux voir un coup maintenant ? Il lui tendit la bonbonne. Johnson refusa impatiemment d'un signe de tête. Bill l'examina sous ses paupières mi-closes et m'offrit la bouteille. Je bus la goulée de principe. « Continue, » le pria Johnston, « je ne comprends toujours pas pourquoi. »« Tu comprendras bientôt. Tu as saisi le principe. L'essence d'eucalyptus est aussi inflammable que de l'essence ordinaire. »«
Oui. » »«
Alors réfléchis à la composition d'un koala. Ses intestins sont toujours bourrés d'eucalyptus. Ses gaz sont du gaz d'eucalyptus à l'état pur. Il faut toujours éviter les koalas dans un feu de brousse. »«
Pourquoi ?» demanda Johnston.
« Mais pour l'amour du ciel !» s'exclama Bill, « tout le monde sait pourquoi. Le koala explose comme une bombe quand son haleine entre en contact avec une étincelle. Dans le temps, j'en ai vu dans les forêts du sud exploser l'un après l'autre pendant les feux de forêt. Des explosions incroyables. Des bouts de koala en flammes partent dans tous les sens et le feu se propage si rapidement qu'il rattrape un homme au pas de course. »
Bill but une lampée de sherry.
« Ah, par ma foi, » dit-il pensivement, « c'est horrible à voir une explosion de koala. »
Johnson notait à toute vitesse.
« C'est la première fois que j'entends parler de ça, » observa-t-il. « T'as déjà vu un koala dans un feu de brousse, Sanky Bill ?»«
Non, pour tout dire, non. Dans ce cas, » dit Bill avec une mimique.
Puis il se tourna vers moi et me regarda droit dans les yeux. « Et toi ?»«
Moi, oui, » m'empressai-je de répondre. « À deux occasions même, ils explosent comme des grosses bombes. »
Johnson me dévisagea.
« Vraiment ?»
« Bien sûr, lui assurai-je.
On ne le voit plus beaucoup de nos jours parce que les koalas sont rares, mais j'ai entendu plein de vieux broussards qui le racontent. En plus, c'était vrai. »«
Remarquable, » dit Johnston. « Ce qui veut dire que si l'on mettait une allumette devant les narines d'un koala, il exploserait ?»«
Oh, ça, je l'ai jamais vu, » répondis-je nettement. « En tout cas, je ne m'y amuserai pas. Qu'en penses-tu, Bill ?»«
Seul l'homme qui en a assez de la vie ferait une chose pareille, » décréta Bill avec sérieux.
Johnston feuilletait ses notes, l'air perplexe.
« Mais attends un peu, remarqua-t-il. Tu m'as dit tout à l'heure que vous faisiez cuire les koalas en les jetant dans le feu. N'explose-t-il pas quand vous faites ça ?»
Bill leva les yeux au sombre ciel de la fin de journée. « Bien sûr que non, » dit-il d'une voix sourde. « Ils ne respirent plus. Il n'y a donc pas de gaz qui s'échappe de leur gueule. Ce qui se passe, c'est que l'essence dans leur intestin se réchauffe très rapidement et ils cuisent donc de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est pour ça que les koalas cuisent très vite.
Mais je croyais qu'il fallait attendre que l'essence soit sèche, demanda Johnston, ahuri.
On fait ça après la cuisson, répondit patiemment Bill. Faut les faire sécher au soleil, un ou deux jours. Le koala se mange toujours froid, jamais juste après la cuisson.
Je vois, dit fit doucement Johnston en continuant de prendre des notes. Je vois, oui, c'est logique.
C'est logique, répéta Bill avec assurance. Maintenant, veux-tu savoir comment mon grand-père a gagné la bataille de Pigeon Creek à l'aide d'un couloir ?
Oui, je t'en prie, répondit Johnston avidement.
Bien.
Mon grand-père envoya un message aux Wangina leur proposant une bataille sur la crête au-dessus de Pigeon Creek la nuit du lendemain, qui était une nuit de pleine lune. Il proposa que les deux clans ennemis se rassemblent autour de leur feu sur la crête, se rencontrent au milieu et en finissent une fois pour toutes. Les Wangina ont accepté sans hésiter. Ils étaient sûrs d'eux et ne nous prenaient pas au sérieux. Nous étions 40 guerriers et nous nous sommes rassemblés au bord du précipice, sur le côté ouest de la crête de Bijin, qui surplombe le ruisseau de très haut. Les Wangina nous craignaient si peu qu'ils n'ont envoyé que 10 hommes autour de leur feu, du côté est du ruisseau. Maintenant, as-tu compris quel était le plan de mon grand-père ?
Pas exactement, admit Johnston.
Je vois, soupira Bill, en levant encore les yeux au ciel devant tant de stupidité. Il cherchait à rapprocher le koala des feux des Wangina pour qu'il explose et crée la confusion générale.
Mais enfin, souleva Johnston, les Wangina devaient savoir que les koalas explosent quand ils sont en contact avec le feu, et donc ils ont bien dû l'empêcher de s'en approcher.
Tout à fait, dit Bill en croisant les bras sur son ventre velu avec une certaine complaisance. Et c'est justement là que mon grand-père a fait preuve d'un sens aigu de stratégie guerrière.
Johnston était raidi par l'effort de noter chaque précieuse parole prononcée par Bill.
Bon, je vais tout expliquer. Tu sais que, selon notre coutume, nous échangeons toujours des cadeaux avant une bataille, pour montrer que nous n'en voudrons pas au vainqueur.
Oui, je suis au courant. Ce n'était pas toujours très sincère, certes, mais nous le faisions. C'était la coutume.
Naturellement.
Donc, quand on s'est rencontrés entre les deux feux, les Wangina nous ont offert un émeu mort. Et nous, un koala vivant.
Le souvenir le fit joyeusement sourire.
Le cadeau les a surpris car il était très inhabituel. J'étais moi-même chargé de le porter et j'étais tailladé de la tête aux pieds et couvert de sang parce que le koala, un gros, est évidemment furieux d'être traité de cette manière.
Le Wangina à qui je l'ai donné ne voulait pas le tenir vivant et il a cherché à l'assommer.
Mais, suivant les conseils de mon père, je lui ai dit « Alors comment ça, un Wangina a peur de porter un koala vivant ?» Et bien sûr, cet abruti s'est senti obligé de le prendre dans ses bras pour le ramener à son camp. Et il s'est fait griffer et est mort jusqu'à ce qu'il soit aussi amoché que moi.
Johnston arrêta ses griffonnages.
Mais il ne l'a pas amené près du feu.
Bill sourit. Pas près du feu. Pas assez près pour qu'il explose dans des circonstances normales, mais
mon grand-père était sacrément rusé. Il avait nourri le koala de racines de mulga, broyées, dont on se sert quand on a des problèmes de digestion et qu'on a besoin de rôter.
Tu veux dire, demanda Johnston, le stylo à l'air.
Je veux dire que le koala rôtait violemment et que Cero propulsait l'essence bien plus loin qu'en temps normal.
Le Wangina est reparti dans son camp avec ce koala fou qui se débattait, griffait, mordait et rôtait dans ses bras.
Il n'a jamais remarqué la force d'Héro, ce qui n'est pas surprenant. Les autres guerriers Wangina l'entouraient comme c'est leur coutume de le faire. Ils devaient aller déposer l'offrande avant de revenir se battre.
Nous sommes repartis dans notre propre camp avec les mêmes morts et nous les avons observés.
À une dizaine de mètres de leur propre feu de camp, les Wangina se sont prudemment arrêtés. Mais à ce moment-là, le koala a été pris d'un renvoi phénoménal et là, attention! Un rideau de feu a quitté le foyer en suivant la ligne d'éructation et le koala a explosé comme une boule de feu. C'était un spectacle atroce sous la pleine lune devant le feu de camp. Le koala s'est transformé en une énorme boule jaune qui projetait des flammes. Il a soufflé des 10 guerriers Wangina d'un seul coup. On a senti la chaleur et le choc sur nos visages alors qu'on était à une centaine de mètres. Quand la fumée et les flammes se sont apaisées, on ne voyait plus un seul Wangina. Ils avaient tous été projetés dans le précipice et leurs cadavres reposaient dans le lit du ruisseau de Bijing Creek. Aucun n'avait survécu à l'explosion ou à la chute.
Bill marqua une pause et regarda tristement ses orteils.
« Ah, c'était une grande victoire, dit-il, mais une victoire abominable. Nous ne voulions pas en tuer tant. »
Il prit une goulée de sherry et, perdu dans ses pensées, oublia de m'en offrir.
« Nous n'avons jamais recommencé, même si nous nous sommes battus à de nombreuses autres occasions depuis. Nous n'avons jamais réutilisé le couloir. Cette arme était trop redoutable. »
Johnston n'écrivait plus et regardait Bill d'un air ébloui.
« Je ne sais pas comment t'exprimer ma reconnaissance, dit-il. Ces renseignements sont uniques. Voilà qui va infiniment faciliter l'obtention de mon doctorat. Comment te remercier ?»«
25 $ de plus fera l'affaire, décréta Bill. »
Johnston hésita, puis lui tendit les billets de bonne grâce.
Je les quittai peu après, roulant quelques 200 km vers l'ouest dans le désert, retrouvai la route
et partit au nord vers Cooper Pedy. Deux ou trois jours plus tard, je croisais Johnson dans la cour carrée de l'université de Sydney. Il avait rédigé sa thèse et obtenu son doctorat. Oh, c'était formidable de pouvoir noter la postérité les renseignements que Bilankala Labouba m'a donnés dans le désert. Cette fois-là, me dit-il d'un air attendri. J'éprouve avec une énorme satisfaction de savoir que l'histoire n'aurait jamais rien su de la bataille de Bidgin Creek sans ma thèse. Je n'eus pas le cœur de lui dire qu'il avait encore écorché le nom de Bill.
Au cinéma. Et donc son roman principal s'intitule « Cinq matins de trop » qui fait figure de classique contemporain en Australie et qui est tout le temps en réimpression et qui a été traduit dans plusieurs langues et a atteint donc une renommée universelle. Alors Martine Laval d'ailleurs de Télérama qualifie les romans de Kenneth Cook de « formidables descentes en enfer » de personnages puisés dans la réalité, à lire pour se donner des émotions, mais aussi rencontrer un maître de la narration. Donc Kenneth Cook, il est mort d'une crise cardiaque en 1987, à l'âge de 57 ans, alors qu'il partait en camping avec sa femme. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que voilà, ces histoires à la fois drôles et pertinentes vous auront amusé et intéressé. Et à bientôt, alors, dans une autre émission.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.